Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission, vous le savez, consacrée à la musique classique sacrée. Et nous allons donc aujourd'hui partir sur les traces du prêtre roux, monsieur Antonio Vivaldi, que vous connaissez tous forcément, qui n'a jamais entendu les quatre saisons. Et vous savez, quand on fait des micro-trottoirs, comme ça, on dit, citez-moi les 4-5 compositeurs les plus célèbres en musique classique. Bah, vous avez toujours, en gros, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Tchaïkovski et Brahms. Voilà. Et Vivaldi est, à juste titre, un des compositeurs les plus célèbres. Pourtant, je voudrais quand même vous rappeler que lorsqu'il est mort en 1741, dans la plus grande indifférence générale à Vienne, son nom a été complètement oublié et il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les Italiens ressortent cette musique baroque. Parce que pendant très longtemps, les Italiens n'écoutaient plus du baroque. C'était pas cette musique-là, c'était du Verdi, du Puccini, de la musique vériste. Mais on avait complètement oublié le baroque. Et vous le savez, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu des mouvements qui ont fait renaître cette musique. Et on peut s'en réjouir. C'est tellement beau, c'est tellement dynamique. Et ça illustre tellement la richesse de la Sérénissime République de Venise qu'on peut dire que Vivaldi, c'est l'homme de Venise. Et c'est là le drame, c'est qu'à un moment donné, il a voulu chercher la gloire ailleurs, il est parti à Vienne, et c'est là malheureusement qu'il est mort, je vous l'ai dit, dans la plus grande indifférence générale. On ne sait même pas où il a été enterré. C'est pour vous dire à quel point on s'imagine que les compositeurs sont toujours très célèbres. Non. Mais Vivaldi, tant qu'il est resté à Venise, était un homme célèbre, et on va le voir, un homme heureux. Alors, il était prêtre. Il avait une belle couleur de cheveux de ce qu'on appelle le blond vénitien. C'est pour ça qu'on l'appelait le prêtre roux. Et on va voir qu'il a eu une vie très particulière puisque son nom reste attaché à une institution vénitienne très importante qui est l'Ospedale della Pietà. C'est-à-dire que c'était une institution que la Sérénissime République de Venise finançait afin que toutes les jeunes filles orphelines de la République, qu'elles soient nobles ou qu'elles soient de basse extraction, comme on disait à l'époque, eh bien, avaient le droit à la même éducation. Et donc, c'était Venise qui assurait à ces jeunes filles une éducation de manière à, pourquoi pas, à ce qu'elles puissent bien se marier. Donc, dans l'éducation des jeunes filles, il y avait évidemment énormément de musique et dans la musique, il y avait l'étude des concertos, ce qui explique pourquoi Vivaldi va composer plus de 450 concertos, notamment beaucoup pour le violon. Mais comme il était un prêtre reconnu, comme il était un compositeur adulé, lorsqu'il y avait de grands événements, on lui demandait bien sûr d'écrire des œuvres. Et c'est le cas notamment de ce magnifique Gloria qui est en ré majeur, qui porte un numéro 589, même si ça n'est pas tout à fait une chronologie qui est respectée. Mais en tout cas, c'est une très, très belle œuvre qui montre à quel point eh bien, la richesse harmonique de Vivaldi est là. Alors tout de suite, on va revenir dans quelques instants sur l'histoire de ce Gloria, mais je voudrais qu'on en écoute tout de suite le début. Gloire in excelsis, gloire au plus haut des cieux, gloire à Dieu, etc. On va glorifier Dieu et on va écouter justement le premier Gloria. Ensuite, on va l'enchaîner à un autre chœur où il est question de la paix sur la terre. Et vous allez voir, l'œuvre est magnifique. On a envie de chanter. Eh bien, on va chanter.
Thank you.
La conclusion de cette deuxième section du fameux Gloria 589 en ré majeur d'Antonio Vivaldi, on vient d'entendre le Et in terra pax et maintenant la paix sur la terre. Et vous voyez à quel point la musique baroque sait manier les contrastes, presque les contradictions. Dans la gloire de Dieu, on était en ré majeur avec des trompettes et des timbales. Et là, on est sur la paix dans le monde et vous voyez que c'est beaucoup plus calme. C'est vraiment une œuvre magistrale. On considère d'ailleurs que c'est peut-être la plus belle œuvre sacrée d'Antonio Vivaldi, mais il faut quand même savoir que Vivaldi avait composé trois Gloria différents. Celui-là, c'est le plus célèbre. Il a été composé comme les deux autres dans les années 1700, on ne sait pas exactement à quel moment, c'est-à-dire au moment où Vivaldi a à peine une trentaine d'années et où il est déjà un professeur de musique réputé à la fameuse Ospedale della Pietà, cette hospitalité de la piété qui, encore une fois, était un lieu où Vivaldi va passer quasiment l'essentiel de sa vie puisqu'il sera pendant très longtemps professeur d'abord de violon puis ensuite de composition. Mais, et c'est là où c'est merveilleux chez Vivaldi comme la musique baroque, c'est qu'on sait utiliser l'espace. C'est ça qu'on va entendre encore à nouveau. Vous savez que par moments, on mettait des orchestres un peu partout dans les basiliques pour que ça résonne mieux. On faisait des expériences acoustiques. Et la basilique Saint-Marc, cette merveilleuse église, j'espère que vous aurez l'occasion de la visiter si ce n'est déjà fait. Cette magnifique basilique Saint-Marc est pleine de dorures, avec des mosaïques extraordinaires, des mosaïques byzantines magnifiques, qui est vraiment un lieu extraordinaire où le son se propage un peu partout. Eh bien, les compositeurs, comme Vivaldi, utilisaient justement l'espace et mettaient les trompettes à droite, les cordes à gauche, mettez le cœur plus loin, de manière à ce qu'il y ait une sorte de, je vais le dire vite, de spatialisation en quelque sorte de la musique. Et ça donnait encore un côté plus dramatique. Alors, on va continuer, on va s'imaginer dans la très belle cathédrale de Venise, qui est la basilique San Marco, hein, dédiée bien sûr à l'évangéliste Saint-Marc. Et on va donc écouter maintenant la suite. Nous te louons, nous te glorifions, Laudamus te, vous allez voir, on change là encore d'atmosphère et ça va nous permettre d'entendre justement des voix de puisque ce Gloria est écrit pour chœur, mais avec des solistes et un très bel orchestre. Et puis si vous êtes Lavallois ou Mayennais, vous connaissez sans doute La Folle Journée, vous connaissez forcément ce très grand interprète qui est Michel Corboz. C'est Michel Corboz qui est à la tête de l'ensemble vocal de Lausanne et de l'orchestre de chambre de Lausanne et qui nous donne une version très belle de ce Gloria de Vivaldi. Thank you. Laura Mousté, extrait du fameux Gloria d'Antonio Vivaldi, vous avez pu constater qu'il y a deux très belles sopranos qui chantent en même temps les paroles, évidemment, du Gloria. Hein. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons. Mais ce qui était très intéressant aussi, il faut le signaler, c'est qu'à l'Ospedale della Pietà, il y avait des femmes, il y avait des jeunes filles. Donc ça explique aussi pourquoi de nombreuses compositions, même religieuses, font appel essentiellement à des voix de femmes, c'est-à-dire soprano, alto, voire contralto, parce que c'était les élèves d'Antonio Vivaldi qui souvent chantaient. C'est pour ça que Vivaldi a écrit énormément de concertos pour violon, mais aussi pour mandoline, pour hautbois. Il fallait en quelque sorte, je vais le dire vite, animer les cours de solfège. Donc il écrivait des innombrables concertos ou concerti pour justement alimenter les classes d'orchestre et faire travailler les jeunes filles. Mais Vivaldi était aussi lui-même un grand musicien et ça n'empêchait pas, évidemment, d'interpréter lui-même, par exemple, des fameux concertos pour violon et orchestre. Dans les concertos pour violon et orchestre les plus célèbres, évidemment, il y a les fameuses quatre saisons, mais il y en a d'autres. Et on connaît peut-être un peu trop, si je puis dire, les œuvres concertantes de Vivaldi. On ne connaît pas assez sa musique sacrée, qui, vous allez le voir, est véritablement très belle. Alors, on va continuer dans ce fameux Gloria. Je vous l'ai dit, aux alentours de 1700, comme Vivaldi est né à Venise en 1678, vous voyez, il a quelque chose comme 25 ans, 26 ans, donc il est encore très jeune, mais c'est évidemment un talent extrêmement prometteur. J'ai eu la chance, personnellement, d'aller plusieurs fois à Venise, et j'ai pu visiter l'église où a été baptisé Antonio Vivaldi. C'est une petite église qui ne paye absolument pas de mine de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des richesses comme en Italie. C'est-à-dire qu'il y a des mosaïques, il y a des tableaux à tomber par terre tellement c'est beau. Et puis c'est comme ça, dans l'indifférent général, les gens ne visitent jamais cette petite église parce qu'on connaît, rattachée à la mémoire d'Antonio Vivaldi, l'église de la Salute, la grande église blanche où justement venaient chanter les jeunes filles. Il faut bien se rappeler que les jeunes filles et Antonio Vivaldi, l'orchestre, souvent composé que de femmes, eh bien, jouaient dans la grande église de la Salute, qui était cette grande église avec une coupole blanche sur les bords, évidemment, de la lagune. Enfin, et donc, on ne connaît pas l'église où a été baptisé Antonio Vivaldi, mais si un jour cherchez-la, elle est vraiment très belle. Alors, on va retrouver donc celui qui est devenu très jeune prêtre, parce que la famille de Vivaldi n'était pas riche. Et vous savez qu'à l'époque, on pouvait comme ça nourrir un enfant en le donnant, en quelque sorte, à l'église. Et c'est ce qui est arrivé à Antonio Vivaldi. Il avait un gros problème en tant que prêtre, disait-il, c'est qu'il était allergique à l'encens. Alors, vous imaginez l'encens à l'époque baroque, c'est quand même très utilisé. Si bien qu'Antonio Vivaldi, bien qu'il fût prêtre, était, on va dire, dispensé de dire la messe. Alors, il avait dit que, voilà, il supportait pas l'encens. Est-ce vrai, est-ce faux? Peu importe. Mais en tout cas, ça lui a donné l'occasion et le temps d'écrire de la musique et de la diriger. Donc, tout de suite, on va continuer dans ce très beau Gloria. Alors, on va passer quand même 5 ou 6 sections. Pour arriver là encore, je voudrais vous faire entendre une voix de soliste tout à fait intéressante. Parce que, pour varier, on va entendre maintenant une alto, après les deux sopranos, cet alto qui va chanter « Toi qui es assis à la droite du Père », etc. Vous connaissez le texte « Qui sedet ad dexteram patris ». On retrouve tout de suite la très belle voix d'alto de Anna Schaer dans ce Gloria Vivaldi.
Thank you.
Un autre extrait du Gloria qui porte le numéro RV589 d'Antonio Vivaldi. Ici, c'était la très belle voix d'Alto d'Anna Chaer qui chantait ce passage donc consacré à celui qui est assis à la droite du Père et qui doit prendre pitié de nous. Et on va écouter maintenant la conclusion de ce Gloria qui est en 12 parties. Nous, on en a écouté quelques-unes. Et on va enchaîner donc « Toi seul et saint » et « Toi seul et Seigneur », et on terminera avec le « Cum Sancto Spiritu », avec le Saint-Esprit. Donc vous allez voir que c'est très court, le « Cognam tu solus sanctus », eh bien ça dure 40 secondes, et on va enchaîner ensuite avec la fin, le « Cum Sancto Spiritu », qui conclut donc ce fameux Gloria. Ce que je veux dire, c'est que Vivaldi, il fait pas une économie de moyens, parce qu'encore une fois, vous avez vu, c'est un grand orchestre, c'est des chœurs, mais il va très court. Il respecte presque la prosodie, c'est-à-dire le texte. Il fait pas beaucoup de répétitions, parce que justement, il veut aller vite. Non pas que c'est dans la précipitation, mais on essaie de garder, en quelque sorte, l'ossature, le schéma de la prière, comme si elle était dite, et on ne l'illustre que par de la musique, et on ne répète pas, comme on le fera plus tard, 5-6 fois les mêmes paroles. C'est pour ça que les morceaux sont très courts. Donc on écoute tout de suite le Cognam tu solus sanctus, toi seul et Seigneur, et on termine par avec toi et le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. La conclusion du fameux Gloria en ré majeur d'Antonio Vivaldi, interprété ici par Jennifer Smith et Wallis Stemfli soprano. Vous avez pu entendre également Anna Schaer comme alto, tandis que l'ensemble vocal de Lausanne, l'ensemble instrumental et l'orchestre de chambre de Lausanne étaient placés sous la direction de Michel Corbeau. J'avoue que c'est un de mes disques préférés. J'ai ça dans ma discothèque au moins depuis 1975. C'est pas tout jeune, mais ça ne se démode pas. Ce qui est certain, c'est que nous allons rester dans cette ambiance de Venise, de la sérénissime République. Il faut quand même bien vous rappeler que depuis le Moyen-Âge jusqu'au, allez, on va dire, 18e siècle, Venise constitue une puissance extrêmement importante. Bien sûr, elle a conquis Chypre des Turcs, elle a étendu tout son rayon commercial dans toute l'Europe par sa flotte qui est absolument extraordinaire, et c'est une cité qui est extrêmement riche, avec encore une fois un régime politique extrêmement intéressant, puisque les grandes familles votent parmi elles et élisent celui qui va devenir le chef, le fameux Doge. Doge qui vient du latin dux, qui veut dire le chef. Duce en italien, dux et duc. Eh bien, Doge, c'est la même chose. Et le Doge était à la fois ce personnage dont la personne était sacrée. Ça n'était pas du tout un religieux, c'était véritablement un chef d'État élu. Et c'est assez étonnant de se dire qu'au Moyen-Âge, on a comme ça quelques républiques. À Florence aussi, on a des grandes villes italiennes qui sont indépendantes les unes des autres. Faut pas vous leurrer, Venise pouvait faire la guerre à Rome, qui pouvait la faire également à Florence. Donc on était toujours dans des rivalités, et les rôles des papes à partir des Borgia, ça a été justement d'essayer d'avoir une sorte d'unité italienne. Elle ne se fera pas. Il faudra attendre le fameux 19e siècle pour qu'il y ait véritablement cette unité italienne. Mais à l'époque de Vivaldi, lorsqu'on est à la fin du 17e et début du 18e siècle, parce que Vivaldi, il est né en 1660, je le rappelle, à Venise, et il est mort à Vienne en 1741. C'est quasiment le contemporain de Handel et de Bach. À quelques années près, on a une belle trilogie. Eh bien, il faut dire que Antonio Vivaldi est un domestique, un fonctionnaire, je devrais dire plutôt, de la Sérénissime République de Venise. Et c'est pour ça qu'il va écrire énormément d'œuvres, des œuvres, des cantates, des opéras. On redécouvre aujourd'hui les opéras d'Antonio Vivaldi, et puis on connaît évidemment tous ces fameux concertos pour mandoline, pour harpe, pour hautbois, pour flûte et bien sûr pour violon, puisque je le rappelle quand même, Antonio Vivaldi était à la base un violoniste et professeur de violon à cette fameuse Ospedale della Pietà. Mais il était aussi compositeur religieux, et je vous propose d'écouter un extrait d'un très beau Kyrie composé à peu près à la même époque que le Gloria. On est dans les années 1705-1710 à peu près, et il va prendre le texte du Kyrie, « Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié ». Nous, on va entendre juste la première partie de ce fameux Kyrie, donc le Kyrie lui-même, et vous allez voir là encore qu'on est dans une pratique assez intéressante. Comme il faut quand même alimenter l'école en permanence de concerto, qu'il faut faire de la musique, on a beau être un prêtre génial, il faut quand même par moments se reposer. Donc Vivaldi va reprendre parfois de ses compositions. Et dans le Kyrie, faut le savoir, il a repris des bouts de concerto pour instrument, et puis il a vite fait une parole dessus, il s'est bien débrouillé, mais ça donne quelque chose de magnifique. Mais il faut savoir que de temps en temps, il reprend en quelque sorte, pardonnez-moi, je vais mettre des guillemets, dans son stock de concerto pour écrire de la musique religieuse. C'est le cas notamment du Kyrie, mais vous allez voir, c'est quand même très beau. Thank you. le début, la première section du Kyrie qui porte le numéro RV-587, qui est en sol mineur d'Antonio Vivaldi. Il y a le Kyrie, il y a le Christe, et on reprend ensuite le Kyrie. Il s'agissait là encore de la même interprétation, si je puis dire, avec l'ensemble vocal de Lausanne, l'ensemble instrumental de Lausanne, placé sous la direction de Michel Corboz, pour vous montrer d'autres couleurs, finalement, de la musique de Vivaldi. Et on va retrouver une autre œuvre extrêmement importante d'Antonio Vivaldi, le fameux Credo, d'après le Credo de Nicée, hein, du 4e siècle, où le texte n'a pas évolué. Vous le dites quand vous allez à la messe ou à l'église, hein, je crois en Dieu, etc. Ben, c'est le même texte que vous allez voir évidemment en latin, je ne vais pas vous le traduire, vous le connaissez. Et là, on va voir justement à quel point Vivaldi sait utiliser sa verve, son invention, pour justement trancher un peu en fonction des paroles. Et je vais vous le laisser en entier, ce Credo, parce qu'il dure 11 minutes. Tout est dit, et vous allez voir qu'il y a des sections. Au départ, on est évidemment dans l'affirmation, je crois en un seul Dieu, etc. Puis vous allez voir, à un moment donné, ça va se calmer, ça va se rendre beaucoup plus doux. C'est au moment où on parle du Christ qui s'est incarné, hein. La Vierge voilà, était autour, le Verbe s'est incarné, hein. Et on va parler donc de cet incarnatus est. Puis ensuite, vous allez avoir une section évidemment beaucoup plus sombre, beaucoup plus calme, mais en même temps plus douloureuse, qui est évidemment l'évocation de la crucifixion du Christ pour nous, hein. Crucifixus etiam pro nobis, et puis évidemment, et resurrexit, la résurrection. On repart évidemment dans une musique beaucoup plus joyeuse. Et c'est là en cela que Vivaldi, parce qu'il est prêtre aussi, connaît bien tous ces textes et a envie de parfaitement les illustrer avec encore des moyens dont il dispose, c'est-à-dire essentiellement des voix de femmes, quand ce sont les jeunes filles de l'Ospedale della Pietà, et puis un orchestre fait essentiellement de jeunes filles, hein, il faut bien le comprendre. Alors ce Kyrie, il est évidemment très beau. Je vous propose donc de l'écouter dans sa totalité. On se retrouve toujours sur Radio Fidélité dans une dizaine de minutes et on écoute ce très beau Credo. On pense que Vivaldi en a composé d'autres. Comme les Gloria, il en a écrit au moins trois, on n'en connaît que deux. On sait par les lettres, par les manuscrits, qu'il en a écrit d'autres, mais c'est le seul qui nous reste. Mais s'il n'y en avait qu'un, c'est le plus beau.
Thank you.
Voilà ce très beau credo dont la tonalité, vous avez vu, est un petit peu douce, un peu nostalgique. C'est normal, on est en mineur, on est dans la tonalité de mi mineur, mais c'est une très belle œuvre, encore une fois, qui reprend la totalité du texte de Nicée, on va dire dans les années 320-330 après Jésus-Christ, et ce credo qui n'a pas évolué, qui reste évidemment une des prières essentielles de la liturgie, on va dire chrétienne, parce qu'il n'y a pas qu'en dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe aussi où on a des credos, mais c'est vraiment un texte central avec une très belle musique. Vous avez vu cette tension presque dramatique qu'il y a en permanence autour de ces quatre mouvements qui constituent donc le credo de Vivaldi interprété, je le rappelle, là encore par Michel Corboz, l'ensemble vocal de Lausanne et l'ensemble instrumental de Lausanne. Alors, on va terminer cette heure consacrée donc à Antonio Vivaldi et sa musique sacrée avec des extraits de ce génial Magnificat qui est aussi beau que des plus belles œuvres de la liturgie. Là encore, on voit toute la science de la composition de Vivaldi avec ce double cœur, avec ces harmoniques très marquées, très belles, qui montent, qui reprennent le très beau texte. Vous savez que la Vierge va dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Je vous propose de l'écouter maintenant dans la version du Magnificat d'Antonio Vivaldi. C'est une œuvre, on va dire, de maturité. On sent que le style de Vivaldi est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus sûr, et c'est vraiment une très belle œuvre. Donc on écoute les deux premières sections du Magnificat de Vivaldi. Le début du Magnificat, et sans plus attendre, on va en écouter la conclusion, le Sicut Locutus Est et le Gloria, vous savez, où il est question de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Vous connaissez le texte, écoutez maintenant comment Vivaldi va le transcrire. La conclusion du Magnificat en sol mineur d'Antonio Vivaldi, interprété ici par les solistes, l'ensemble vocal de Lausanne et l'orchestre de chambre de Lausanne placé sous la direction de Michel Corboz. Ainsi s'achève cette émission passée en votre compagnie et celle de Mathieu La Technique, Didier Pilon. Je serai heureux de vous retrouver une prochaine fois pour parler encore de musique sacrée. Après Vivaldi, on découvrira d'autres grands compositeurs.